Nous.
Bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes sur Radio Libertaire, maintenant c'est place au monde merveilleux du travail, présenté ce soir par le syndicat de l'industrie informatique CNT. Et donc ce soir on va parler de Anonymous, des activistes et de la liberté sur internet. Donc on va faire un petit tour de table pour se présenter, hein, vite fait.
Vas-y, commence.
Ok, bon bah alors moi c'est Colin, donc du syndicat de l'industrie informatique.
Donc bonsoir, Guillaume du syndicat également, et on a Salah qui est au téléphone, qui va nous rejoindre dans quelques instants.
Voilà, et à la technique
Salah également, qu'on remercie, bon, comme d'habitude.
De santé sociale.
De santé sociale, exactement.
Alors on vient de se faire taper sur les doigts parce qu'on a coupé la chanson de Léo Ferré.
Oula.
Et vu ce qu'il a donné pour l'anarchisme, c'est pas bien.
C'est totalement volontaire et d'un autre côté, pour bien passer le... Ah oui, je m'entends, c'est vrai. Générique, quoi. Donc on peut pas commencer en retard non plus.
Donc, désolé. Voilà. Donc vraiment désolé, évidemment on est tous...
Après, je veux pas pour qu'on s'excuse. Hein. Ferré c'est pas un dieu non plus. Hein. Ni dieu ni maître, hein, rappelez-vous.
Voilà. Donc,
sur ces bonnes paroles.
Donc Anonymous, il faut savoir que nous on a appelé le syndicat, on a appelé à leur rassemblement devant... c'était où
C'était à Pompidou,
voilà,
au centre Pompidou.
Devant le centre de Pompidou, on y était aussi avec eux, contre ACTA. ACTA, on avait fait une émission la dernière là-dessus.
Mois dernier, ouais.
Voilà. Et donc, on va peut-être en savoir un peu plus ce soir, qui sont Anonymous, ce qu'ils veulent, etc.
Ouais. On va essayer d'en parler.
Partie, c'est ça, voilà.
Et puis après, on va essayer de parler de tout ce qui est... outils numériques, la sauce libertaire, toutes les alternatives possibles, ce qu'on en pense.
C'est ça, alternative à Internet ou Internet alternatif.
D'ailleurs, il y a les camarades de Culture Spectacle qui font bientôt un débat sur justement sur le numérique, en fait, enfin, qui tue le métier de projectionniste ou qui tue le livre. Alors, ouais. Par contre, je ne sais plus c'est quand.
Le 19 avril, je crois.
Le 19 avril, donc c'est au Vignol, c'est ça ?
C'est, oui, je crois.
Et pour l'heure, on va dire 18-19h.
18. Enfin, ouais, je sais plus, je vais pas dire de bêtises.
Mais ça a été dit à l'émission juste avant.
Et sur le site de l'Union régionale de la
CNT, voilà, donc cnt-f.org/URP.
Voilà, ça devait être indiqué là-bas.
Et on y sera peut-être, enfin, on va essayer d'y être pour apporter notre contribution au débat si on y arrive. Bon, alors tout de suite, on passe aux Anonymous,
c'est
aux activistes
ça, ouais,
de tout poil, parce que bon, ça va être surtout Anonymous, mais pas uniquement, c'est pas les seuls.
Il y a aussi voir. Télécomics.
C'est ça, voilà. On en parlera aussi. Donc, Guillaume, tu nous fais un petit historique. Hein, ils existent depuis quand Ils existent depuis quand, Anonymous, en fait
Alors, Anonymous, rapidement, un petit historique, effectivement. Ça existe en gros depuis 2003. Enfin, 2003, c'est à peu près l'époque où on situe la création du mouvement. À l'époque, c'était sur un forum qui s'appelle 4chan. Et qui était surtout destiné à discuter de tout ce qui était manga, culture japonaise au sens large. Donc voilà, rien à voir a priori avec tout ce qui est hacker, pirate informatique, tout ce qu'on veut. Donc c'était vraiment un forum de discussion, de rencontre, où la plupart des intervenants postaient donc leurs commentaires sous le pseudo Anonymous, c'était donc anonyme, hein, évidemment, pour les non-anglophones, mm-hmm. s'il y en a. Ça veut dire donc anonyme, et c'était le pseudo par défaut. Donc quand on répondait, voilà, on avait ça.
Si dans le formulaire pour répondre, en fait, si tu mettais pas de mot de passe, ça te met.
D'ailleurs, c'est toujours le cas. Si t'as installé un forum en anglais,
c'est dans plein de forums.
Je le vois tous les jours, quoi.
C'est un grand classique. Ouais. C'est pas que 4chan, bien sûr. C'est un gros classique.
Sur un FTP.
Tout ça pour voilà, petit clin d'œil. Enfin, pour expliquer d'où vient le nom du mouvement entre guillemets Anonymous, c'est de cette période-là. Et par la suite, donc, il y a eu plusieurs années où le mouvement a fini par se développer pour devenir une espèce de... Alors c'est difficile à définir hein, ce mouvement, parce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment un groupe fédéré autour d'un ensemble de valeurs, d'une organisation.
Bah déjà c'est horizontal, déjà au niveau de l'organisation.
Il n'y a pas même pas vraiment d'organisation. Justement, ils revendiquent le fait de ne pas avoir d'organisation, pas d'hierarchie, pas de centralisation des décisions du pouvoir. Il n'y a pas non plus de personnes qui sont mises en avant pour représenter le mouvement. Donc ça s'est créé un peu comme ça dans ce... je sais pas, une espèce de chaos qui est devenu une forme d'organisation de fête, jusqu'à des premiers faits d'armes qui ont eu lieu aux alentours de l'année 2008, enfin, même pas aux alentours, au cours de l'année 2008. Ils se sont fait connaître surtout en s'attaquant à la Scientologie. Et bizarrement, ce n'était pas forcément des attaques numériques par Internet, etc. C'était plus des manifestations physiques contre la Scientologie. C'est là qu'on a vu apparaître un peu les masques de Guy Fawkes, donc les masques avec le sourire, les moustaches qu'on voit dans toutes les
On fait un petit aparté sur la BD pour expliquer d'où vient ce masque. Ouais. Donc en fait, c'est une BD qui... le masque vient du héros de la BD qui s'appelle V pour Vendetta, qui est... Alors, je ne sais pas si elle est dessinée, enfin, c'est le scénario qui est d'Alan Moore, donc qui est un auteur anarchiste. Ouais, je suis pas sûr que
le dessin, non, c'est un autre.
Ouais. Donc c'est un auteur anarchiste super connu qui fait des super BD. Et donc c'est un personnage qui vit dans une époque post-thatcherienne, ultra sécuritaire, ultra fasciste, ultra autoritaire. Et donc c'est un mec qui utilise la propagande par le fait, donc finalement le symbole paraît assez bizarre finalement de reprendre le masque.
Tu veux dire de...
Parce que c'est un mec qui est seul, même si ensuite il crée des émules, c'est quand même un mec qui est tout seul, qui est dans la propagande par le fait. Quoi. Bah, il n'y a pas du tout d'organisation, on va dire, dans la BD. Quoi. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris, en fait,
le lien.
Enfin, ouais, le lien entre le héros de V pour Vendetta et les Anonymous, en fait, là-dessus. Quoi.
Après, il faudra peut-être leur demander à eux
directement.
S'ils y voient. Après, je pense qu'il y a une reprise qui a été faite. Il y a les premiers qui l'ont utilisé, et puis après, il y a une reprise, et puis tu sais, ça fait un peu...
J'ai peur que ça soit vachement fait sur le film, où à la fin, tu vois, tous les habitants qui sont... Enfin, les londoniens qui sont avec le masque, alors qu'en fait, dans la BD, ça finit pas du tout comme ça, quoi.
On n'allait pas voir le film, il est pas bien.
Ouais,
lisez la BD.
Dans la BD, il agit seul et il meurt seul, quoi.
Ouais, et puis...
Il n'y a pas du tout de mouvement de masse...
Et puis en fait, dans la BD en tout cas, le symbole du masque, m'a-t-il semblé, c'est qu'il ne voulait pas que son combat et son idée soient identifiés à une personne. Mm. Donc c'est un peu en opposition au culte de la personnalité sans doute. Mm. Il ne voulait pas que ce soit vraiment une personne qui ait fait un mouvement, il ne voulait pas prendre le pouvoir, mais justement il voulait cet anonymat pour garantir que son combat serait finalement pour tous. Mm. Et que ce ne serait pas récupéré.
Mais le héros, de toute façon, lui-même se dépersonnifie, n'a jamais conscience de sa personnalité, en fait. Enfin, il parle souvent de lui à la troisième personne. Enfin, tu vois,
C'est une idée, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça se transparaît.
Enfin, lui-même,
BD,
il ne se ressent pas du tout comme une personne. Enfin, voilà, comme une idée, comme une idée éphémère.
Son être disparaît devant ses idées et le combat qu'il mène. Quoi.
Voilà.
Donc, alors après, est-ce que c'est le message que veulent transmettre les Anonymous avec ce masque? On ne va pas se permettre de parler en leur nom, surtout qu'on va voir que c'est assez divers, ce mouvement. Donc, et bon, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, ils reprennent ce symbole, ce masque, qui est issu de cette BD, dans pas mal d'actions, physiques bien sûr, même des actions numériques, parce que dans toutes les vidéos, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, on les voit avec ces masques, il y a toute cette mise en scène. Donc c'est un peu leur symbole. Donc on était à 2008, on peut passer à 2009, bon, on ne parle pas de tout hein, ce qui s'est fait, on essaie de faire quelque chose d'assez schématique. Aux alentours d'avril 2009, il y a eu tout l'épisode de The Pirate Bay, donc le site suédois qui faisait du partage de fichiers. Donc il y a eu à cette époque la condamnation des fondateurs du site, et c'est là qu'il y a commencé à avoir les attaques de type DOS qui ont été effectuées par la mouvance.
Alors, petite explication de ce que c'est une attaque DOS.
Une explication technique.
C'est du déni de service.
DOS, ouais, DDoS, c'est déni de service. Donc en fait, c'est plein de machines qui vont faire énormément de requêtes sur un serveur, et le serveur ne va pas pouvoir répondre à toutes les requêtes, et donc du coup, il sera indisponible aux personnes. Donc toi, si tu essaies d'y aller avec ton navigateur, il répondra probablement pas, parce que y a plein d'autres machines qui lui font des demandes.
Ouais, il va t'afficher une page d'erreur disant le site machin est indisponible.
Ou pas du tout, rien du tout. Il répondra du tout. Voilà.
Dans le monde physique, on pourrait dire que c'est pratiquement comme s'il y avait beaucoup de monde qui se massait devant l'entrée d'un bâtiment, d'un immeuble par exemple. Et donc forcément, les nouvelles personnes qui arriveraient devant l'entrée du bâtiment ne pourraient plus rentrer du fait de cette concentration de personnes, le temps que ça s'écoule en quelque sorte, que ça rentre. Voilà, pour faire une petite explication de ce que c'est. Donc c'est des attaques qui sont de type non destructive, mais qui paralysent le système pendant un temps. C'est ce qui s'est passé notamment pendant l'affaire Mega Upload. On va y revenir.
Et surtout pour des histoires comme ça, en fait, c'est surtout dans l'ordre du symbolique. Et c'est ça qui est quand même assez beau, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vous attaquer, enfin, vous n'avez pas vous protéger. C'est ça qui est cool d'ailleurs dans l'informatique, hein, c'est que finalement, il n'y a aucune sécurité infaillible, quoi.
Ah oui, parce que là, c'est même pas, tu passes même pas les barrières de sécurité. Ou
oui,
quoi
oui,
que
là,
soit,
oui, là, oui.
Là, t'interdis l'accès, quoi qu'il arrive. Donc, c'est quasiment impossible de se prémunir contre ce type de.
Bah non, parce qu'il n'y a aucun serveur, sauf. Même les serveurs de Google ne pourraient pas supporter, par exemple, si t'as 7 milliards les 7 milliards d'êtres humains se connectent tous sur une machine. Je pense pas que les serveurs de Google supportent autant de charges, quoi.
Puis même, il n'y a même pas besoin qu'il y ait autant d'humains qui se connectent, puisqu'en général, les attaques DOS sont faites par des logiciels qui bombardent de requêtes. Hein. Donc les Anonymous utilisent Loïc, par exemple. Enfin, il y en a d'autres. Loïc, ouais. C'est le nom du.
Non, c'est pas un mec qu'on jette.
C'est pas un mec, ouais. Non, c'est
un logiciel.
C'est son petit nom, mais c'est un logiciel.
Non, l'acronyme, c'est quoi? Ça veut dire quoi déjà, Loïc?
C'est. Alors, IC, c'est Ion Cannon, c'est canon à ion. Et Low Orbital Ion Cannon. C'est canon à ion en orbite haute. Non, en orbite basse, pardon. Cédric, tu as un logiciel qui s'appelle Cédric? Ah, c'est vrai, ouais, parce que je veux.
Et donc c'est un logiciel quoi que tu installes sur ton ordinateur et,
ouais, que
et
tu
ça
peux installer,
permet
ouais.
donc aux Anonymous d'utiliser ton ordinateur pour faire des requêtes d'OS.
Ouais, c'est ça. Si tu n'as pas besoin d'être un crack en informatique pour participer, c'est en gros voilà, tu dis bon bah j'accepte que le logiciel s'installe et au moment où il y a une attaque qui est lancée contre un site, ceux qui déclenchent l'attaque vont se servir de tous les PC qui auront installé ce logiciel là pour bombarder de requêtes le serveur en question et c'est comme ça qu'il arrive à tomber.
Ouais, c'est un peu comme un virus qu'on aurait installé, mais de façon volontaire.
Ouais, c'est ça. C'est, même si ça n'a pas les mêmes conséquences, parce qu'un virus, en général, ça s'insinue dans le système, ça peut détruire des fichiers, ça peut voler des données, etc.
Et ça peut faire des requêtes DOS, justement, des déni de service.
Enfin, c'est quasiment de l'action directe non violente, en fait. Quoi.
Ouais, il y a de ça dans le DOS. Bon, après, on va peut-être pas rentrer trop dans le technique pour tous ceux qui se passionnent pas pour ça. Qui...
Ouais, je suis sûr qu'il y a pas mal d'auditeurs que ça doit intéresser.
Oui, oui, comment ils,
non
se,
pas
comment
pour,
ils font.
Pour s'y mettre, mais enfin, ouais, de comprendre comment.
C'est vrai que c'est intéressant de savoir comment ils font, parce que les médias disent toujours ouais, une attaque. Enfin, il y a des mots comme ça qui sont prononcés, et finalement, concrètement, on sait pas bien ce qui se passe dans la réalité. Donc voilà, en tout cas dans l'affaire The Pirate Bay, on y revient, 2009, donc c'est ce type d'attaque, donc des attaques DOS qui ont été faites contre une organisation internationale qui s'appelle l'IFPI, qui est une organisation qui protège les droits d'auteur, donc comme la BD Pirate avait été, enfin les fondateurs avaient été inculpés, voilà, il y a eu une riposte qui s'est faite pour protester contre ces atteintes à la liberté, enfin en tout cas ce que les Anonymous considéraient comme tel. Et ensuite, ça s'est poursuivi, donc il y a eu pas mal d'actions, de choses, notamment en 2010, fin 2010, en décembre, il y a eu l'affaire Wikileaks, parce que Wikileaks donc, avait subi les pressions des autorités américaines, notamment du FBI, à l'époque, puisque donc, ces autorités américaines ont dit à PayPal, Mastercard, Visa, différents fournisseurs de thunes hein, pour Wikileaks, d'arrêter leur commerce avec Wikileaks, qui allait sans doute... pas être marrant pour Wikileaks, manque de thunes, forcément ils allaient avoir des soucis. Enfin, ils ont eu d'ailleurs des soucis, donc riposte à nouveau des Anonymous sur ces sites-là, PayPal, Mastercard, qui ont été...
Donc même chose, attaque par déni de service sur ces sites-là.
Tout à fait. Et après, donc, on a eu la série 2011 qui a été relativement chargée en événements. C'est là que les Anonymous se sont fait beaucoup connaître. Il y a eu tout ce qui a été confrontation avec le cartel de drogue mexicain Las Zetas.
Ouais, ça a été bien chaud. Hein. Tu peux nous faire un petit récap là-dessus ?
Ouais, bah en gros, c'est assez simple. Enfin, c'est simple, mais c'est pas marrant. C'est qu'au Mexique, donc, le cartel de Las Zetas, c'est un gros cartel de drogue, donc une mafia, des mecs qui rigolent pas. Ils ont pris en otage, kidnappé notamment des membres de Anonymous. Il y en a même qui sont décédés, hein, qui ont été tués par ces gens-là. Ouais. Et donc Anonymous, en riposte, a fait non plus du DDoS, mais a fait un autre type d'action qui a été de récupérer des données. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut faire via un site internet, via différents moyens. On peut venir piocher des données dans la base de données et avec ces données, bah, ça peut être par exemple les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone, enfin suivant ce qu'il y a dans la base, on peut récupérer un peu tout et n'importe quoi. Et donc ils ont fait pression sur le cartel de drogue en disant soit vous relâchez ceux des nôtres que vous détenez encore, soit on balance toutes les infos qu'on a piochées sur vous aux autorités, donc aux flics, etc. Et les mecs du cartel de drogue ont baissé leur froc et ont dit « Ok, on relâche vos mecs. » Parce que bon, ils sentaient que ça commençait à sentir un peu le sapin. Et ils ont réussi donc par ce moyen-là à faire suffisamment pression pour récupérer des gens à eux qui étaient détenus par le cartel de drogue.
En France, on a eu plus ou moins la même avec l'opération Lyon Propre. Des attaques contre des sites d'extrême droite où les Anonymous avaient carrément réussi à récupérer les comptes rendus du GUD, des noms, des adresses et des machins, et ça les a quand même bien, bien, bien calmés.
Ouais, c'est sûr, mais en général, quand tu as des infos à donner qui peuvent être sensibles, c'est vrai que.
Et des redirections de sites fachos vers le site antifasciste Reflex et tout, des trucs assez marrants comme ça. Quoi.
Ouais, des petits.
Ils vont avoir bien la rage, quoi.
Des petites attaques comme ça. Ah, ils en ont fait pas mal, hein. C'est pour ça qu'on dit pas tout, on essaie de parler des gros faits d'armes, mais effectivement il y a eu plein de choses, vraiment dans tous les domaines, que ce soit la taxe contre l'extrême droite, donc le cartel de drogue, il y a eu aussi tout ce qui a été soutien au printemps arabe, au pluriel, puisque donc ça a été soutien aux révoltés en Syrie, soutien en Tunisie, soutien en Égypte, en Libye, voilà, donc tout ça c'était l'année dernière aussi principalement, bon, même si ça continue, on en parle moins, mais c'était surtout l'année dernière. Il y a eu notamment des défaçages de sites, donc ça c'est encore un autre moyen d'action dont on n'a pas parlé.
Et qu'est-ce que c'est un défaçage ?
Bah c'est simple, en fait c'est de remplacer le...
Je sais ce que c'est, hein,
c'est ouais, le terme. je me doute. C'est de remplacer la page, le visuel d'un site par un autre, c'est-à-dire que tu te connectes sur, je sais pas, google.fr, n'importe quoi, au lieu de tomber sur la page que tu devrais voir, tu tombes sur... sur un autre site, donc pour les sites en Syrie, ils avaient fait notamment au lieu de tomber sur le site je dis n'importe quoi, de l'ambassade de Syrie, t'avais le nombre de morts qui avaient été faits par
Bachar
al-Assad sur telle ville, voilà, X morts sur telle ville commis par le régime, voilà, ils avaient remplacé des pages.
Ils avaient aussi d'ailleurs filé des moyens d'utiliser des proxys et tout ça afin de se protéger face à la censure, quoi.
Ouais, ils avaient essayé effectivement que les gens puissent contourner tout le système de censure qui avait été mis en place. Et donc, pour finir, sur 2011, on a eu aussi tout ce qui était présence dans Occupy. Donc, il y a eu tous les mouvements Occupy aux États-Unis, en Europe aussi, surtout aux États-Unis, avec Wall Street, etc. Donc, pareil, on a vu les masques défiler. Donc là, c'était plus sur des actions physiques, réelles. Et pour finir, plus proche, en 2012, en janvier 2012, on a eu l'affaire Mega Upload, la fameuse affaire qui a fait... grand bruit dans les médias et qui a fait connaître les Anonymous, donc on va sans doute revenir dessus, mais en gros c'était la fermeture par le FBI du site Mega Upload, le fait qu'ils interpellent le patron en Nouvelle-Zélande, donc riposte des Anonymous sur tous les sites. Alors il y a eu le FBI a été attaqué, mais il y a eu aussi tous les gros sites d'industrie culturelle.
Le site de l'Elysée aussi d'ailleurs.
L'Elysée aussi, ouais, quand Sarkozy a dit c'est très bien que ce soit fermé mais qu'upload, hop, il s'en est pris aussi. Enfin, il y a eu Adopi, il y a eu Universal, il y a eu
Vivendi. C'est vraiment salaud parce que la fermeture de Mega-Upload, il y a plein de gens qui se sont sentis orphelins, quoi.
Ouais, bah, y a eu...
C'était quand même bien pratique.
C'est sûr, c'était un gros site, il y avait vraiment, je sais plus, c'était 1 million de connexions.
C'est dans les 10 premiers sites, dans les sites, les sites les plus visités.
C'est ça, c'est un des plus gros sites, des plus grosses affluences. Et donc ça a été fermé, donc à nouveau, riposte Anonymous.
Et puis plus récemment, donc, toutes les manifestations anti-ACTA, ils étaient présents. En France et ailleurs, en Europe et dans le monde.
Ouais, notamment le 10 mars, ce que tu disais tout à l'heure. La dernière en date, je crois, enfin en tout cas la plus grosse manif en date.
C'était pas la plus grosse, mais c'était juste un rassemblement en fait, c'était le dernier rassemblement anti-ACTA.
La dernière action. Donc voilà, petite historique pour essayer de situer un petit peu ce qu'ils sont. On va essayer de parler un peu de leur organisation et de leurs revendications maintenant, parce qu'on parlait de l'historique, on voit qu'il y a des choses relativement diverses. Et ce qu'on peut noter sur déjà l'organisation, c'est cette revendication permanente de pas d'hiérarchie, pas d'organisation établie, pas de... rien quelque part, pas de logo véritablement. Enfin si, ils ont une espèce de logo quand même, le costume là avec le point d'interrogation au-dessus. Donc il y a quand même une com, on va dire, qui se fait dans le sens où ils ont des points communs, des repères communs.
Rien que le masque
C'est ça,
qui est très repérable quand même.
Effectivement, t'as raison, le masque dont on parlait.
C'est qu'en plus, il est fort quand même le masque. Quoi. Ouais. Enfin, il s'ancre vachement bien dans la tête. Quoi.
Ouais, tu le reconnais tout de suite. Quoi.
Ouais, c'est un symbole super fort, je trouve. Quoi.
Oui, c'est vrai, et en même temps, quand y a des gens se baladent dans la rue, manifestent avec tous ce même masque, c'est quelque chose. Quoi.
Bah ouais, c'est clair que ça a de la gueule. Quoi. Enfin, en même temps, c'est logique, ça a été quand même fait par un dessinateur de BD. Quoi. Ce serait presque comme porter un costume de Superman. Enfin, tu vois, ça marque tout de suite. Quoi.
D'ailleurs, malheureusement, entre parenthèses, juste une petite, petite parenthèse, la Warner se fait beaucoup de thunes avec les ventes de ce masque-là, parce qu'évidemment, ça part. Bon, ça fait un peu chier, faut pas se mentir, mais...
Vous pouvez faire comme moi, vous pouvez en fabriquer un sur internet, tu peux en fabriquer un en papier, sur un papier...
Tu fais à la maison.
Ouais, il y a un tutoriel pour en faire un en papier, en carton quoi, ils sont super en plus.
Si vous avez pas envie de donner de la thune à la Warner et que vous voulez quand même le masque, c'est possible.
Ouais, ça va, ils en ont déjà assez comme ça quoi.
Ouais, ça c'est clair, y a pas besoin de les abreuver. Donc voilà, les Anonymous, effectivement, ils se revendiquent sans hiérarchie, sans chef. Pas de rien qui vient du dessus.
Et ce qu'ils essayent beaucoup, c'est d'éviter de se faire récupérer par tous les mouvements politiques.
On sent qu'il y a une peur, une méfiance, en tout cas une grosse méfiance là-dessus. Ouais.
Par exemple, donc dans les manifestations anti-ACTA auxquelles donc Anonymous a appelé, il disait aux partis politiques qui étaient présents de ranger leur drapeau.
C'est ce que tu disais l'autre fois, quand dès qu'il y avait une bannière, un drapeau.
Donc vous pensez qu'on peut vraiment pas dire que c'est un mouvement anarchiste, parce que le héros quand même de la BD, le héros est quand même anarchiste. Et
En fait, ce qui est sûr.
Enfin, je veux dire, il s'en cache pas, il le dit au moins 4 ou 5 fois dans la BD, quoi.
C'est vrai, ça c'est clair, dans la BD, il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, moi, c'est ce que je mettais un peu dans l'article pour info, peut-être ceux qui ont lu, j'avais fait un article sur le site sur les Anonymous.
Sur Sibis Syndicat.
Il y avait un paragraphe justement qui questionnait le truc, est-ce que les Anonymous, on peut dire qu'ils sont anarchistes ou pas, ou d'influence libertaire en général. C'est assez difficile de répondre parce qu'effectivement, il y a ce côté pas d'hiérarchie, on veut que tout le monde soit l'égal de son prochain, ou je sais pas comment on peut formuler la chose. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui font fortement penser à des libertaires.
Un groupe horizontal, sans chef.
En même temps, il n'y a pas de volonté de s'organiser. Tu vois, ce côté-là, il y a la volonté, justement, tellement de volonté de ne pas être récupéré qu'ils ne veulent surtout pas être étiquetés. Je trouvais le mot. Étiquetés, que ce soit anarchiste, communiste, ou l'inverse, ou libéral, ou tout ce que tu veux.
Je comprends d'ailleurs tout à fait leur méfiance là-dessus, quoi.
Bien sûr, elle naît, je sais pas de quoi elle naît précisément, je veux pas encore une fois me faire le porte-parole d'eux. Mais en tout cas, oui, ils ne veulent pas prendre le risque de, qu'il y ait des porte-parole qui puissent ne pas être...
En tout cas, je rassure nos camarades Anonymous qui nous écoutent, il n'y a pas de parti anarchiste, donc il n'y a aucune honte à se revendiquer anarchiste.
Ouais. Mais bon, on va les convertir. Ouais. À la fin de l'émission, tous les Anonymous. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même ça, le, enfin, il me semble, hein, le point le plus marquant de leur mouvement et de ce qu'ils expriment. Bon, après, ça se fait aussi à l'échelle internationale. Et j'avais noté aussi le côté théâtralisation, qui est peut-être un peu péjoratif, dit comme ça. Mmh. Mais en tout cas, mise en scène de leurs idées. On le voit beaucoup, moi, j'ai trouvé dans les vidéos YouTube, avec bon, le masque, avec la voix modifiée, avec les petites... on sent le côté. Bon,
en même temps, ça marque hein, dans une société où on adore le spectacle spectaculaire. Oui. Moi, je trouve que ça marche bien. Quoi.
Enfin, c'est vrai. On leur reproche. Je sais qu'il y a des gens qui leur reprochent ce côté com, quoi. Vous faites de la com, machin. Mais c'est vrai que de toute façon, si tu veux avoir une audience, une visibilité, dans une société qui est, comme tu dis, de la com, de toute manière, si tu fais pas de com, malheureusement.
Puis je vois pas où est le mal, de, justement, sur le côté théâtral. Ouais. C'est quand même plus sympa que tu vois une succession de mots. Limite à la Star Wars, quoi, franchement, je trouve ça sympa, enfin, qu'il y ait un peu de théâtre, quoi.
Ouais. Tant que ça cache pas le discours.
Ouais, ouais, évidemment, ah, évidemment, ça, quoi. Enfin, le but, c'est quand même, oui, que le discours soit audible, mais sinon, le côté théâtral, enfin, à titre perso, moi, ça me dérange pas plus que ça, quoi.
Non, il y a plein de vidéos, j'ai trouvé, qui étaient bien faites, notamment les vidéos sur ACTA, où ils t'expliquent bah, pourquoi, enfin, en gros, je caricature presque, mais pourquoi ACTA, c'est mal. Voilà, t'as des petits schémas, ils te disent, bah voilà, dans la vie réelle, ça correspondrait à ça. Et enfin, c'est vraiment parlant, c'est bien foutu, c'est intelligent, c'est... Enfin, y a,
enfin le principal, c'est quand même que le discours passe, quoi. Enfin, tu vois, après...
Oui, voilà, c'est ça.
C'est vrai que des fois, tu vois des productions qui sont faites, enfin, pff, ça passe pas, quoi, ou ça passe mal, quoi.
Non,
c'est pas digeste.
Hein. On peut pas trop leur cracher dessus sur le côté... sur la forme, c'est bien fait, et sur le fond, il y a aussi des idées qui nous intéressent.
Et qu'on partage, d'ailleurs, en plus, pour beaucoup.
En grande partie. Alors, quelles sont les revendications, plus précisément, des Anonymous ? Évidemment, je pense qu'elles sont vraiment nombreuses et diverses du fait, justement, que la communauté Anonymous est très hétéroclite et ne se range sous aucune bannière vraiment très précise. Mais en gros, ce qui se détache souvent de leur discours, c'est l'anonymat sur tout ce qui est Internet et les réseaux, la neutralité du réseau, et tout ce qui est tout ce qui va être liberté de partage, liberté d'échange, liberté d'expression. Donc ils veulent pas que Internet en particulier, mais même tous les outils numériques, soient récupérés par des grosses boîtes, soient récupérés par l'industrie.
Surtout qu'en ce moment c'est quand même mal barré, parce que on a fait pas mal d'émissions précédemment là-dessus, mais t'as quand même des attaques sans précédent sur sur tout, quoi. Justement avec les DRM,
toutes les lois ACTA, SOPA.
Mais là, j'hallucine. Enfin, tu vois les grandes boîtes. Enfin, désolé de reparler de jeux vidéo, j'en parle souvent parce que je suis un gros geek. Mais je vois qu'en fait, ils s'attaquent carrément maintenant au marché de l'occasion. En fait, il y a tout un tas de techniques pour que, enfin, tu vois, l'objet, en fait, tu puisses même plus le revendre, en fait.
Ce que tu disais l'autre fois avec le.
Ouais, les sauvegardes uniques ou les DRM, en fait, tout simplement. Ou tu vois, maintenant, où tu vois, t'as un code unique pour pouvoir jouer en ligne. Et en fait, sinon, ensuite, sinon, t'es amputé en fait d'une partie du jeu, quoi. Ouais. Je parle de ça pour le jeu vidéo, mais ça va arriver aussi pour.
Oui, ça arrive pour.
Tout ce qui est DVD, tout ce qui est numérique, en fait, quoi, la musique, machin, où tu pourrais les lire que sur un seul support. Enfin, à mon avis, on va bientôt y arriver, quoi.
C'est déjà présent, plus ou moins, au niveau de la vidéo, au niveau des vidéos. Des vidéos aussi, par exemple, les vidéos à la demande, c'est beaucoup de protection donc numérique sur le fichier, des DRM, qui t'empêche de le lire sur les devices, les produits, les produits électroniques, donc le téléphone ou ça te permet uniquement de pouvoir les lire sur tel type de téléphone, tel type d'ordinateur, tel type de platine de salon.
Les formats propriétaires et tout ce qu'ils mettent avec les DRM, de toute façon,
donc, ça te permet ça t'empêche de pouvoir les copier, un genre de choses.
Ouais, c'est ça, ça empêche de partager, quoi.
De toute façon, on va en parler un petit peu tout à l'heure et justement donner un peu des conseils, justement d'essayer de sortir un maximum de tout ce qui est propriétaire, quoi.
Ouais.
Parce que sinon, on pourra vraiment plus, enfin, pourra même plus partager. Enfin, c'est dingue quand même comment plus la technologie avance et plus sur tout ce qui est tout ce qui touche au culturel, on régresse en fait. Ouais, c'est qu'avant, tu magnétoscope, paf, tu t'enregistrais un film, tu le filais à tous les copains qui qui en faisait des copies et tout maintenant, quoi. Enfin, ouais, enfin, le temps avance, on ne pourra même plus copier, tu vois. Ou...
Bah oui, parce qu'il y a ce côté marchandisation maximale. Mmh. Donc le capitalisme fait que tout doit être rentabilisé, y compris la culture, sous toutes ses formes. Donc le prêt à un copain, le partage de contenu culturel au sens large, est mal vu, et pour le capitalisme, il doit être contrôlé, rentabilisé.
Mais surtout, c'est dingue comment ça rentre facilement dans les mœurs. Tu vois, je m'amuse à lire les forums de geeks. Par exemple, tu sais, t'achètes un jeu qui coûte déjà 70 euros, tu vois, sur une console de salon. Et maintenant, ils te vendent les téléchargements payants.
Ouais.
Et tu sais, c'est vraiment rentré dans les mœurs, tu vois, d'acheter un jeu à 70 euros, puis ensuite tu vas rajouter 10 et 15 euros, et 20 euros, en 30 euros, une extension.
Le petit patch, le petit bidule qui fait que.
Et tu sais, tu vois, sur 10 commentaires, t'en as 7 qui vont trouver ça normal. 3 qui vont dire, mais attendez, vous êtes des cons, réveillez-vous.
Ouais.
Il faut boycotter, machin et tout, quoi. Ouais, désolé d'avoir fait cet aparté sur le jeu vidéo, mais c'est sur tout ce qui est culturel, de toute façon, on va y arriver, quoi.
Non, mais de toute façon, culturel au sens très large. Hein.
Tu vois, en plus, avec le livre numérique, ils essayent de nous vendre, ça va être pareil, tu pourras lire le livre que sur un seul support. Enfin, c'est l'aberration ultime, quoi.
C'est déjà le cas, en fait.
C'est déjà le cas ? Ah ouais, sur les tablettes, par exemple.
Le livre numérique, c'est beaucoup le cas où, justement, il y a des DRM dessus, donc des protections numériques pour t'empêcher de les lire ailleurs que sur ta tablette, t'empêcher de la copier. Donc,
si t'as envie de les lire sur ton ordinateur, tu peux pas.
Alors, tu peux. Mais uniquement si tu as ton compte, etc. dessus. Bref, c'est uniquement sur ton ordinateur, pas sur un ordinateur de quelqu'un d'autre.
Après, en fait, c'est vraiment une privatisation, une double privatisation de la culture. C'est-à-dire qu'en fait, la culture est déjà privatisée parce que ça coûte une fortune et machin, quoi. Mais en plus, c'est-à-dire que tu achètes un bien culturel et tu peux même pas le diffuser. Enfin, tu peux vraiment pas le diffuser à quelqu'un d'autre, quoi.
Une fois que tu l'as acheté,
c'est-à-dire qu'en fait,
fini,
il n'appartient qu'à une seule personne, c'est limite nominatif. Enfin, c'est comme si.
C'est ça, c'est nominatif.
Ouais, enfin, qu'il y a marqué ton nom sur le bouquin et que si t'as pas ton empreinte digitale dessus, personne ne le lire, quoi. C'est quasiment ça, quoi. Enfin, ça fait peur, quoi.
Tout à fait, c'est l'idée, en fait.
C'est ça, c'est que les technologies numériques, au lieu d'aider au développement de la culture, c'est-à-dire à ce que chacun puisse partager, justement, toute cette culture plus facilement, plus loin, plus vite, etc., non. Tu vas être obligé de payer à chaque fois pour la moindre ligne que tu vas lire.
D'où l'idée de Musée Le Net, justement, là-dessus, parce que c'est quand même un énorme moyen de diffusion. Bon, après, tu sais, si c'est pour aller voir des blockbusters, moi, ça me mange pas. Mais t'as quand même des super films que tu retrouves pas, ou j'en sais rien. Enfin, tu sais, il y a quand même des trucs. Ça permet quand même un accès à la culture à tout le monde, au niveau de la musique, au niveau des photos, j'en sais rien, quoi. Et tu sens que là, clairement, ils comprennent les majors et machin, que ça commence à leur échapper.
Ouais.
Mais le pire, c'est qu'en plus, quand tu regardes, finalement, ils chialent, mais quand on regarde leurs pertes, elles sont minimes.
Sur le piratage, oui, ça représente pas grand-chose, sur toute la thune.
Je veux dire, ils tirent tellement sur les marges que de toutes les manières, avec tout le piratage que tu pourrais faire, ils se font plus de thunes qu'il y a 20 ou 30 ans, quoi. Enfin, surtout que les supports, maintenant, ça leur coûte de moins en moins de produire, tu vois.
Ouais, tout est produit en Chine sur les supports.
Oui, déjà,
physiques,
même en plus les supports, tu vois, je pense justement au film, par exemple, au film dématérialisé ou au livre dématérialisé, tu te rends compte, quoi, t'as plus tout le circuit de production, quoi. T'as plus le distributeur, t'as plus l'imprimeur,
ils te le vendent toujours au même prix.
T'as plus les livreurs, quoi. Enfin, ouais. Par exemple, justement, sur les films, tu vois, tu regardes dans les trucs VOD, tu veux acheter un film ou un jeu vidéo, ça te coûte le même prix. Que le jeu ou le film physiquement, quoi. Enfin, tu t'en comptes en plus de vous en rendez compte du cynisme, quoi.
Tu payes pas
que le truc, tu vas dans un magasin, tu vas le payer 49 euros. Via internet, tu paieras 49 euros aussi, quoi.
Ouais, c'est ça, parce qu'ils rentabilisent le truc en se disant, de toute façon, eux, les gens, ils verront pas le coup venir, et puis on leur facture pareil, sauf que nous, on a beaucoup moins de dépenses, donc la marge, elle augmente.
Mais encore une fois, ça fait qu'en plus, tu peux même pas revendre, un film que tu as déjà vu 20 fois, tu peux le revendre ou plus filer un copain, quoi. C'est-à-dire que, c'est qu'en fait, tu es vraiment plus propriétaire de ce que tu payes. Et j'ai l'impression que tu as ça de plus en plus, en fait. Ça, c'est vraiment de te faire doublement avoir, c'est de payer beaucoup plus cher ce que tu payes à un moment. Et qu'en plus, finalement, l'objet que tu achètes ne t'appartient plus, en fait.
Non, bah oui, il t'appartient, mais c'est quasiment usage unique, quoi. C'est du jetable. Après, tu t'achètes un film, tu le regardes une fois, après, hop, c'est perdu, c'est jeté, tu recommences.
J'avais donné le cas ridicule d'un mec qui avait ouvert un jeu pour voir comment ça fonctionnait, et s'était tapé direct une plainte en lui demandant plusieurs millions d'euros, parce qu'en fait, il avait pas le droit de l'ouvrir, quoi. Ouais. Donc, tu vois, tu te dis, ok, t'achètes un truc, mais en fait, t'as même pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, tu le vois de plus en plus dans les copyrights, vous n'avez pas le droit de faire ci avec votre objet, vous n'avez pas le droit de faire ça et tout, quoi.
Et pourtant, tu as payé pour ce truc.
Ouais, enfin, c'est ça qui est.
Mais t'as payé maintenant, ça devient, t'as payé l'usage unique, pratiquement, ou en tout cas de plus en plus, la consommation unique de ton produit. Et après, si t'as envie de reconsommer ce produit-là, tu repayes. Tu remets ça. C'est la logique du système qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que, justement, on combat. Enfin, nous, on, quand je dis on, notamment nous au syndicat, nous qui partageons les idées libertaires, et aussi les gens comme les Anonymous qui combattent toutes ces lois à la con, ACTA, SOPA et compagnie, les Adopi, qui privatisent de plus en plus et qui veulent rentabiliser tout ce qui est culturel, mais pas seulement, mais entre autres tout ce qui est culturel.
On va se faire une petite pause.
Ouais, carrément. Ouais,
ce serait peut-être pas mal. Salah, petite pause musicale, t'es chaud?
Je croyais que vous parliez à moi, j'allais siffler.
C'est fait maison ce soir.
C'est ça. Juste, donc le numéro du studio, ouais. Si vous voulez nous appeler pendant la pause musicale, donc c'est le 01 43 71 89 40.
Et pour soutenir Radio Libertaire, c'est quoi déjà ça là? Faut faire quoi?
Donc en fait, c'est faut aller donc à la librairie Publico 145 rue Amelot pour faire donc un chèque de 20 euros et obtenir sa carte d'auditeur et soutenir la radio.
Ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs.
Comment dire, la souscription aussi. Donc vous pouvez demander aussi un formulaire pour faire un virement permanent de 5 euros. Mm-hmm. Voilà. C'est reparti.
Dans un nuage de gaz, le temps se fait mal.
glaçon et bleu marine. Ma ville devient triste. Bout de bottes sinistres sur le bitume mouillé qui glisse, arrosé par les canons de la police.
Coup de matraque, hey!
Matraque, 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 matraque.
Tout le monde en a.
Coup de matraque, hey! Matraque, 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 matraque.
Ça fait mal, non?
Bleu marine, le temps, scatifique les yeux et les narines à force de charges sombres. La lumière s'estompe, tout devient gris, bleu et terriblement embrumé.
Je deviens bleu d'uniforme, mon entraîne comme un temps, le temps, le temps se casse. Je vois la misère se rabattre, le temps se casse.
Il va pleuvoir des matraques, le temps se casse.
Dans le nuage de glace.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, le monde merveilleux du travail. Alors, ce soir, donc, on parle d'Anonymous, des activistes et de la liberté sur Internet. Donc, on a bien parlé d'Anonymous en première partie. Donc, maintenant, on va parler un peu donc, d'autres groupes, parce qu'il y a quand même d'autres groupes activistes.
Alors, juste un petit aparté sur l'auditeur qui vient de nous appeler.
Pardon, excuse-moi.
Non, vas-y, allez.
Qui va nous dire un truc vachement pertinent. C'est en fait, il était un peu gêné sur le fait qu'on utilisait depuis tout à l'heure le mot propriétaire. Alors, quand je dis propriétaire du livre ou propriétaire de machin, c'est pas dans le sens de la propriété privée capitaliste, c'est plutôt dans le sens informatique que tout ce qui est propriétaire, en fait, est dans un circuit fermé où on ne peut pas diffuser en fait, vers l'extérieur, quoi.
C'est en fait, on est toujours propriétaire.
Voilà, le logiciel propriétaire,
opposé au logiciel libre.
Voilà. Enfin, à tout ce qui est libre justement. En fait, tout ce qui reste, c'est un circuit fermé où en fait, on est toujours obligé de raquer, et qu'en plus, on ne peut pas faire diffuser aux copains et aux copines, quoi.
Quand c'est pas portable.
Bon, moi, je vais quand même filmer ma clope.
Ouais, du coup, Colin. Donc, je disais,
oui, il y a d'autres groupes activistes un peu moins connus. Par exemple, il y a Loulsec. Un peu loul sec, j'ai pas
tellement pas connu que je les connais pas.
C'est en gros c'est des gens un peu des gens qui viennent d'Anonymous parce qu'ils trouvaient que Anonymous était trop gentil, donc même chose, ils font des attaques en fait c'est principalement uniquement même de manière enfin numérique sur Internet, donc ils ont attaqué Sony, la Fox Télévision aussi.
Ça, c'est pas grave, ça fait du bien à tout le monde.
Voilà. Et il y a un autre groupe qui est intéressant, lui aussi, c'est Télécomics. Donc, eux, ils existent depuis 2009 environ. Mais ils se sont bien fait connaître l'année dernière en redirigeant donc, tout l'Internet syrien vers une page qui explique comment outrepasser la censure donc en Syrie
parce que le contexte c'était donc la révolte en Syrie, donc le gouvernement Al-Assad qui censure tout, qui empêche les gens d'aller sur Internet pour programmer des réunions, des ceci cela, et donc eux ils ont redirigé ce que tu dis sur un site, en fait sur une page qui explique comment justement accéder quand même au net,
exactement comment outrepasser la censure.
Et ça, donc, c'est, techniquement, ça, c'est... on peut quand même souligner que c'est assez fort.
C'est vraiment, en Syrie, donc en septembre 2011, quand tu essayais de te connecter à Internet, tu étais redirigé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant un certain temps, tu étais redirigé sur une page comme ça qui t'expliquait. Donc.
Un petit tuto en 3-4 étapes.
Et sinon aussi, donc, pendant la révolution en Égypte, donc, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de mettre en place, et ils ont mis en place des accès à Internet gratuits, parce qu'il faut savoir que, en, je ne sais plus exactement quand c'était, donc l'année dernière.
En 2011, de toute façon.
Oui, ils ont coupé, enfin, Internet a été complètement coupé en Égypte, mais vraiment complètement. Et donc, ils ont essayé de mettre en place, ils ont mis en place plutôt des connexions Internet gratuites et à la bonne vieille méthode du modem 56K, donc c'est...
ils ont sorti les antiquités.
Exactement, puis, mais c'est... avant d'avoir la DSL, on avait le modem 56K, donc on téléphonait un numéro, et c'est à partir de sur la ligne téléphonique, on avait la connexion Internet. Donc bah, c'est là, c'est le même principe. C'est, donc à moins de couper complètement le téléphone, on ne peut pas couper une connexion comme ça. Bon, il faut savoir aussi que ce n'est pas le haut débit, donc c'est très lent. Mais c'est quand même pas mal pour avoir des communications qui se fassent pour échanger de l'information.
Ouais, c'est ça, ça permettait quand même de partager un minimum de renseignements et d'infos pour se réunir, pour faire des manifs, pour faire des actions. Quoi.
D'ailleurs, le groupe Telecomics se présente sous une forme, en fait, de... Eux, leur but, c'est aider à la communication. Quand il y a des problèmes au niveau des moyens de communication, donc pouvoir développer des alternatives pour communiquer, donc pour outrepasser la censure, genre de choses.
Ouais, donc déjà, enfin, moi je connais pas bien Telecomics, j'ai juste lu un article et puis là ce que t'en dis, ce que je sens c'est que par rapport à Anonymous, il y a une différence, c'est que déjà ils se regroupent a priori sous un nom et sous quelque chose d'un peu plus entre guillemets organisé, enfin un peu plus volontaire et, au niveau de l'organisation. Et ils ont des actions qui sont plus politiques, enfin politiques Anonymous aussi, ils ont eu beaucoup d'actions entre guillemets politiques, mais enfin pas entre guillemets, carrément politiques. Mais eux, j'ai l'impression que c'est peut-être plus, plus marqué, ou en tout cas plus assumé, plus défini. Je sais pas.
Eux, mais ils ont, enfin, leur but est bien assumé et bien... Bien revendiqué.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça, c'est l'aide à la communication, entre autres.
Ouais, je vois le truc. C'est vrai qu'Anonymous, je lisais un article là sur Rue 89, il y a quelques temps. Et il y avait un des Anonymous qui témoignait. Donc, c'était le cadre sup, quarantenaire, de gamin, etc. etc. ancien, entre guillemets. Alors, c'était marqué comment ? Punk républicain. Ou anarchiste républicain ou punk républicain, je me souviens plus. Enfin, j'aurais bien voulu le questionner sur ce point-là parce que ça me paraissait assez étonnant a priori.
C'est Mélenchon, non ?
Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'était ça. Non, non, il avait dit ouais, non, je milite au PS aujourd'hui. Non, non, non. Donc, tu cernes un peu le truc, mais du coup, je trouvais ça étonnant justement. Tu vois, le gars qui politiquement en plus te disait ouais, moi, l'affaire WikiLeaks, j'ai participé. C'est-à-dire tout ce qui était attaque contre PayPal, Visa au moment où il y a eu le procès WikiLeaks. Mais bon, sincèrement, WikiLeaks, je m'en foutais. Enfin, je défends pas spécialement WikiLeaks. C'était vraiment juste parce que il y avait une attaque sur la liberté d'expression à proprement parler. Mais après, voilà, lui, il n'était pas pro ou anti WikiLeaks en particulier. De même que certains disent très bien au sein des Anonymous, nous, on n'est pas pro-dictature, anti-dictature ou antifa ou profa ou quoi que ce soit, mais dès qu'il y a une attaque, une atteinte aux libertés d'expression, on est là et on va contre-attaquer. Donc c'est vrai que parfois, je trouve que c'est un peu compliqué, on va dire, comme discours, parce que effectivement, le gars d'ailleurs qui témoignait disait « Ouais, moi j'avais proposé des actions antifa contre les sites du FN et tout ce qu'on veut. » Et il y en a d'autres qui s'étaient foutus de sa gueule en disant « Ouais non, nous on fait pas dans l'action politique, machin, laisse tomber. »
Pourtant tout est politique, quoi.
Voilà.
C'est ça, se battre contre ACTA, c'est politique, ouais, qu'on y fasse.
Manifester contre ACTA, c'est politique, soutenir les révolutions arabes, c'est politique.
Enfin, le mot apolitique ne veut absolument rien dire, quoi.
Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a peut-être un imaginaire de se dire, si on est apolitique, on est quelque part neutre, et on défend la liberté d'expression, qui est quelque chose qui ne peut appartenir à personne, qui est un espèce d'idéal neutre. Mais
c'est déjà être engagé de toute manière. Enfin, c'est déjà politique de lutter pour la liberté d'expression, quoi.
C'est ça.
Parce que ceux qui veulent museler la liberté d'expression sont dans un camp précis, quoi.
Surtout qu'être politique, c'est dans les partis politiques.
Donc, ouais, ouais.
En fait, ils ont une image tellement
négative.
Réduite de qu'est-ce que c'est le politique, que pour le coup ils disent, et s'ils participent pas à des partis, s'ils font pas la politique comme tout le monde, ils n'en font pas.
Ouais. De toute façon, il y a souvent une confusion entre le... Pardon, excuse-moi. Il y a souvent une confusion entre le politique et la politique, quoi. C'est bien ça le problème.
Bonne remarque sémantique.
Ça... Non mais c'est vrai. Enfin,
ça m'en semblait. Fais gaffe. Hein.
Il déteint. <Ouais. rire> Non mais c'est vrai qu'effectivement ce que dit Salah me paraît pertinent. C'est vrai qu'il doit y avoir cette confusion.
Pour une fois.
Non, pourquoi pour une fois? c'est toujours pertinent.
Non, tout le temps.
Ah mais c'est vrai qu'il y a sans doute cette envie de se dire oh là, on fait pas deux politiques au sens où on s'engage pas, on n'appelle pas à voter machin ou qui que ce soit, et donc du coup on veut vraiment pas faire de politique. Mais c'est sûr que, comme tu disais, de toute façon toutes leurs actions, que ce soit depuis les débuts contre la scientologie, tout ce qu'on veut, ACTA, de toute façon c'est politique, et il y a des choix politiques qui sont faits dans leur démarche, qu'ils le veuillent ou non.
Je viens même de trouver une super phrase: le politique n'appartient pas à la politique. Voilà.
Faut l'écrire.
Qui
faut
dit
l'écrire.
Mieux.
Mais comment l'écrire? Voilà.
Ouais. Une phrase d'anthologie là.
Vous le mettrez sur ma fiche Wikipédia.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour les générations futures. Donc bon, voilà, on voit que c'est un peu. Donc tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Colin, sur Télécomics?
Non, voilà.
L'essentiel est dit.
L'essentiel est dit. Après. Si ça vous intéresse, hein, c'est simple, hein, Télécomics dans Google, dans Wikipédia même, il y a des informations.
Mais pour le coup, on a l'air d'être plus politique, parce que enfin, tu vois, j'avais un article dans cette merde SOSDEM du Nouvel Obs, et le présentait vraiment comme des hackers libertaires, et à aucun moment ça paraissait les gêner en fait. Bon, après, les mots étaient utilisés, c'était toujours de manière anarchique, ils sont anarchiques. Je connais des anarchistes, pas des anarchiques, quoi.
Bah après, c'est ce vieux débat des mots anarchiques, chaotiques, etc.
Mais tu peux pas être anarchiste.
Ouais, crypto-anarchiste.
Crypto-anarchiste.
Ouais, il y avait crypto-communiste, maintenant il doit y avoir crypto-anarchiste. Voilà. Ouais, mais... Donc moi, je me suis dit que c'est des spécialistes en cryptologie, des anarchistes spécialistes en cryptologie, mais apparemment, c'est pas ça.
Ouais, je sais pas, ça peut être ça. Hein.
Parce qu'au syndicat, on a des spécialistes en cryptologie, mais jamais je n'oserais les appeler des crypto-anarchistes.
En fait, principalement, là, c'est pour eux, c'est être anonyme ou sous un pseudonyme sur Internet et utiliser la cryptographie pour communiquer, en gros.
Ah, parce que ça n'a pas du tout le même sens quand tu dis crypto-communiste. Hein.
Ah bah oui, probablement.
Ça,
bah,
c'est
plutôt sûr.
Une méga insulte.
Non, bon, on va bannir crypto, voilà.
Mais bon,
c'est pas simple. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon de tous les groupes. Non, pas du tout de tous les groupes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est très, très riche, très hétéroclite, mais en tout cas de ceux dont on parle pas mal en ce moment, qui sont sous les feux de la rampe des médias. Et donc maintenant, on va essayer de parler un petit peu des alternatives que nous, sous-entendu nous libertaires, pourrions proposer au système existant. Donc on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était propriété, notamment propriété culturelle, etc. Et donc effectivement il y a un gros mouvement pour dire non à ceci, non à cela, on veut pas ACTA, on veut pas Adopi, on veut pas la surveillance, on veut pas les DRM, on veut pas tout ce qui est logiciel propriétaire. Ok, donc ça, on sait ce qu'on veut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de différent?
La grande question, c'est est-ce qu'on est en capacité, enfin dans le futur et même dès maintenant, d'éviter le propriétaire, justement, en fait, au niveau culturel? Parce qu'on est quand même bien enfermé avec le DVD, le Blu-ray, le machin et tout, quoi.
Là, actuellement, enfin, c'est difficile.
Donc tu vois, imaginons un film qui sort au cinéma et tu vois, t'as envie de le diffuser. En fait, tu fais quoi? Tu ressors la bande magnétique, quoi?
Non, mais même la bande magnétique, théoriquement, tu n'as pas le droit de le faire.
Oui, oui. Non, mais là, de toute façon, je pense qu'on a largement dépassé le cadre du droit.
Exactement. Donc,
je pense que la question, elle n'est pas là, mais c'est de savoir comment diffuser une œuvre, enfin, tu vois, qui nous plaît.
Après, sachant que je dirais qu'il faut faire très attention quand on parle de liberté de partage, parce qu'effectivement, il y a ce discours de dire On veut la liberté totale de partager de le contenu, etc.
Là, on va tomber sur le débat du droit d'auteur.
Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Mais il y a cette question.
Qui est d'ailleurs finalement quand même assez complexe, hein, cette question.
Bah ouais.
Par exemple, complexe, et c'est un très grand débat et qu'on n'a pas assez pour le moment.
Bah, par exemple, il y a un truc, tu vois, de base, c'est par exemple, je pense au fils de Claude François qui touche une rente à vie sur les droits d'auteur. Je trouve ça complètement aberrant. Mm-hmm. Moi, je suis assez réac là-dessus. Pour moi, un groupe de musique, par exemple, est censé jouer en live et pas censé vivre, tu vois, en sortant un morceau et en le vendant pendant des années et des années. Quoi. Et à mon avis, tu pourrais avoir un modèle justement de téléchargement libre, enfin à prix libre, quoi. Qui éviterait justement de passer par tout le circuit des majors et tout ça, quoi.
Et justement, il y a des groupes qui s'organisent comme ça, qui offrent, qui vont sur des plateformes qui permettent de télécharger à prix libre. Directement, donc la musique. Voilà.
Et t'as même des groupes vachement commerciaux comme Radiohead qui avait fait ça justement.
Oui, Radiohead avait fait ça à une époque pour un CD. Ouais. Ouais.
C'est possible, mais je pense que c'est difficile malheureusement dans le système actuel parce que bon, il y a deux réflexions. Personnellement, en tout cas, quand j'en parle en général, il y a deux points de vue. C'est quand on réfléchit dans le système actuel et quand on réfléchit hors du système actuel. Quand on réfléchit dans le système actuel, c'est vrai que c'est difficile de dire aux artistes, par exemple, bah écoutez les mecs, nous on s'en fout, on veut partager, donc on pirate, on partage gratos, et puis vous, vous touchez rien. C'est vrai que pour le musicien ou
bah, justement,
l'acteur,
je dis pour le musicien,
etc.,
il doit quand même jouer. Enfin, pour le cinéma ou pour l'édition, c'est quand même beaucoup plus complexe. Mais par exemple pour la musique, enfin pour moi, un groupe c'est censé quand même jouer en live, tu vois. Donc tu fais des concerts, tu gagnes des thunes en concert. Ensuite, tu peux faire du téléchargement libre pour soutenir un petit peu. Du téléchargement à prix libre, pardon. Oui, tu vois, histoire de ramener un peu plus de pépettes.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément évident pour les musiciens de vivre convenablement, dignement, de leur passion à l'heure actuelle. Parce qu'on sait bien que la grosse majorité de la thune est raflée par les majors, par les grosses compagnies qui produisent leurs disques, etc. Mais je connais quelques musiciens, bon, sans plus, mais quand même, je connais un peu de musiciens pour pratiquer un peu. Mmh, et c'est vrai que, ouais, je pense tous plus ou moins de plus ou moins près. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent, voilà. Et puis tu sens, tu sais pas, mon ancien prof de guitare, quand j'y allais, il avait un petit appart, tu sentais que c'était pas le mec qui se faisait des millions, quoi. C'est pas Johnny.
Et... Non, mais je dis pas le contraire, je vois pas. Bien au contraire, enfin, tu sais, j'ai pas mal de potes qui sont dans des groupes de musique.
Ouais,
évidemment, c'est pas du tout le cas, mais tu vois, je suis quand même gêné par le. Par exemple, la vente de CD qui, pour moi, se représente une espèce d'action. En fait, tu vends des actions. Ouais. Quoi. Et en fait, enfin, tu sais, tu vends en fait sur quelque chose que tu ne produis plus. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu sors un CD, en fait, bah, c'est vraiment une vente.
Voilà, après, tu gagnes dessus à vie.
Ouais, voilà, tu gagnes dessus à vie. Là, je parle pour les grands groupes, parce qu'évidemment, pour les petits groupes, ça se passe pas comme ça. Mais enfin, tu vois, pour des grands groupes, enfin, tu vois, c'est vraiment genre, c'est une vente, quoi. Enfin, tu sais, tu sors un CD, tu fais plus rien. Et surtout, en plus, il fournit un minimum d'efforts, parce que finalement, t'as toutes les équipes, t'as les ingé-sons, les machins. Les mecs n'en foutent quasiment plus une. Et voilà,
c'est vrai que c'est
ils font quasiment pas de live, tu vois. Je te donnais l'exemple des Guns N' Roses, enfin ils ont fait leur ils ont produit l'album le plus cher au monde, 100 millions de dollars, tu vois.
Ouais.
Et les mecs ils te font une tournée tous les 3-4 ans, quoi, parce que tu vois les CD rapportent tellement de thunes, le merchandising, qu'ils ont même plus besoin de jouer en live.
Ouais.
Et tu vois, on est tellement habitué à cette merde qu'on se rappelle même plus qu'un musicien là-bas c'est jouer être en live, hein, tu sais, de tout temps.
Les enregistrements, c'est quand même plutôt récent.
Mais pour moi, les enregistrements, c'est censé te donner envie d'aller écouter la personne en live. C'est pas une fin. Enfin, l'enregistrement n'est pas une fin. Enfin, tu vois, la musique, pour moi, c'est du live. Enfin, après, c'est un titre. Je vous l'ai dit, hein, je suis vachement réac là-dessus. Et pour moi, ouais. Enfin, le support numérique ou analogique, c'est fait pour te donner envie d'aller en live, quoi. D'aller voir en live.
Ça pose aussi, c'est la question, c'est que l'art, c'est devenu une marchandise. Et que il y a des personnes qui en vivent. Et que, enfin, on pourrait imaginer que l'art, c'est une question de passion, de quelque chose comme ça, c'est une sorte de hobby. Et que le truc, c'est que le capitalisme, il a réussi à récupérer ce marché-là, et pour en faire quelque chose, voilà, juste une marchandise. Alors qu'au départ, c'est quand même une démarche avant tout. Et que pour le coup, la preuve, c'est que les vrais artistes, c'est pas ceux qui vendent le plus. Et qu'ils sont en train de tout niquer comme ça. Et pour ça, cette question du droit d'auteur, de la propriété, ce genre de choses, c'est que ça a été mis en place. Et ça a rendu l'art commercial. Et du coup, a tué l'art quelque part. Et donc, pour le coup, par exemple, les groupes aujourd'hui qui galèrent, et qui veulent jouer, ils veulent faire de la bonne musique, et ben ils sont obligés de travailler à côté.
Ouais, pour pouvoir le vivre, c'est un boulot alimentaire. Quoi.
Voilà, ils font des boulots alimentaires. Enfin, là, tous les groupes qu'on connaît, ils font des trucs bien, mais techniquement, ils ne peuvent pas en vivre, en fait. Alors que des connards comme Johnny et comme Obispo et tous les gros bâtards qu'on connaît, ben, pour le coup, eux, ils font de la merde, mais ils sont produits, ils sont machins, ils ont des communicants, tout ça. Donc, ils se font de la thune grave. Et en plus, après, ils vont chialer parce qu'on télécharge.
Et ils payent pas leurs impôts en France.
Ils payent pas leurs impôts en France. Salaud ouais.
Mais même l'idée, en fait, si tu veux que la musique appartient à ceux qui la produisent, je trouve ça quand même... Enfin, tu sais, in fine, la musique, c'est quand même une poussée d'air, enfin, une succession de poussées d'air, quoi. Donc, penser que des notes puissent appartenir, enfin... Ouais. Je sais que là je vais vraiment... Ouais, là, je fais mon jusqu'au boutiste, quoi, mais...
Non, mais...
J'avais déjà parlé de l'exemple de T-Mobile, donc, tu sais, c'est l'équivalent d'Orange en Allemagne, quoi. Qui, eux, avaient carrément déposé la couleur. Enfin, tu vois, la couleur de leur logo, c'est un fuchsia. Ils ont déposé le code couleur, quoi. C'est-à-dire qu'une couleur, tu t'en rends compte, une couleur peut être déposée et appartenir à une entreprise privée, quoi, une entreprise capitaliste. Et moi, enfin,
c'est aussi crétin qu'effectivement la musique, tu la déposes. Et
ouais, mais on aura presque des riffs. Enfin, tu vois, je suis sûr qu'on arrivera à une société tellement violente, enfin, tellement jusqu'au boutiste, dans le capitalisme, qu'on sera capable de déposer des riffs, de dire, bah voilà, cet enchaînement de 3-4 notes,
je l'ai breveté.
Je l'ai breveté, quoi. Bah attends, ils ont réussi à déposer une couleur.
Si tu veux l'utiliser. Ouais, mais c'est ça.
Ils ont réussi à déposer une couleur, donc pourquoi pas un riff, quoi. On te dit, voilà, écoutez, notre riff, attendez, c'est le riff, on le joue sur tous les morceaux. Tel autre groupe, il l'a pris, attends, on porte plainte, voilà, ils ont pas joué ce riff. S'ils veulent, ils sont obligés de changer telle ou telle note, quoi. Bah, de toute façon, il y a déjà eu des plaintes sur des bouts de morceaux qui ressemblent et tout. Mais... Alors que forcément, tu t'inspires toujours, tu vois, tu peux faire un clin d'œil, ou j'en sais rien, quoi.
Non, et puis c'est normal de s'inspirer.
Un do, ça reste un do, donc si tu veux un do, c'est... Tu vois.
Ah, mais il sera bientôt breveté, le do, hein. Attention.
Mais moi, je prends le do d'IA, c'est plus...
ils te diront, tu vois, voilà, avec tel... Enfin, j'accorde ma guitare de telle manière, donc ce do, il est spécifique, il m'appartient, enfin, tu vois, comme le bleu de Klein, ou j'en sais rien, ou d'autres conneries, t'auras le do de...
Le do de mon cul.
De Johnny, quoi. Ouais, enfin, quoi, qu'il joue même pas, enfin, il joue à peine. Quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, cette question de... Enfin, nous, je pense qu'en tant que libertaires anarchistes, on est foncièrement contre la propriété, en tout cas physique, mais c'est vrai qu'il y a cette question de la propriété immatérielle, intellectuelle, ouais, effectivement, les œuvres de ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Il faut se poser la question, est-ce que c'est légitime d'avoir une propriété intellectuelle sur une idée, sur une musique, sur un roman ?
Même, hein.
Bah, surtout que la musique, c'est quand même censé...
Le travail, il peut être intellectuel ou manuel. Donc le truc, c'est que soit tu considères que ce que tu produis, ça t'appartient qu'à toi.
Bah dans ce cas-là, tu le diffuses pas et tu joues toujours dans ta salle de bain, quoi. Enfin...
Soit tu considères que ce que tu produis, vu que voilà que les choses avec lesquelles tu les produis, ben, ça appartient à tout le monde, et ben ça t'appartient pas.
Ouais.
Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est compliqué. Et que ce soit intellectuel ou enfin tu vois matériel ou matériel, en fait, le problème n'est pas là. La question, c'est pourquoi on devrait considérer, enfin, plutôt pourquoi les capitalistes, comment ils ont fait pour faire en sorte de considérer que puisque l'outil m'appartient, ce qui est produit à partir de cet outil m'appartient.
Ouais.
Donc je peux le vendre et j'en fais ce que je veux. Et après, je vous emmerde. Enfin, c'est ça la question, je pense. Et
c'est
en tant qu'anarchiste, on est contre ça, en fait. Tu vois.
Ouais. Mais moi, de toute façon, je pose la question, mais c'est...
Mais le problème de la rémunération...
Je suis contre, évidemment, intellectuelle ou physique, la propriété.
Je pense que c'est important d'expliquer la démarche intellectuelle qui nous pousse, nous, en tant qu'anarchistes, d'être contre ce genre de truc. Mm. Parce que, pour le coup, par exemple, sur l'histoire de la musique, tout à l'heure, eh ben, ça peut aider à comprendre quelqu'un qui est musicien, par exemple, qui aime ce qu'il fait, de comprendre aussi que s'il le fait, il peut le faire autrement. Et que s'il le fait comme ça et qu'il le pense comme ça, c'est aussi le résultat de la pensée. Il y a un système, en fait.
Ouais.
Et c'est ça qui est important.
Et surtout que pour la musique, maintenant que le net a explosé, franchement, tu peux facilement te faire connaître. Enfin, si t'es un groupe de qualité, tu vois, et si tu fais, si tu fais pas de la soupe, tu te mets dans un milieu précis, enfin, tu te fais très vite connaître. Et quand tu joues en live, franchement, les salles sont remplies, quoi.
Ouais, c'est
après, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts que de rester. Mais après, c'est un peu salaud de dire ça, alors que je suis pas musicien et que j'imagine même pas les difficultés.
Ouais. Bah, c'est beaucoup
qu'il doit y avoir pour en vivre, quoi. Mais...
De déplacement, de. Mmh. De
bah, en même temps, enfin, oui, c'est de la musique. Donc, enfin, tu vois, la musique, c'est quand même censé voir un minimum le groupe, quoi. Enfin, tu vois.
Après, c'est ce que disait Salah tout à l'heure, c'est la difficulté, c'est de pouvoir de vivre d'un côté. Donc, tu dois faire un boulot alimentaire et en plus, tu viens rajouter cette activité.
Bah, ça, c'est clair que le problème. Enfin, je pense qu'on devrait plus se poser sur le problème de la rémunération. Enfin, moi, à titre perso, de toute façon, je suis contre toute propriété. Enfin, par exemple, un mec qui va écrire un bouquin, je vois pas. Enfin, le bouquin, tu l'écris. Enfin, sauf si c'est un journal intime que tu écris pour toi-même. À partir du moment où c'est censé être diffusé, ça peut plus t'appartenir, quoi. Enfin, tu vois, c'est des lettres, enfin des mots. Ouais. Tu peux pas dire, ouais.
Et même les idées.
Voilà, et des idées, tu peux pas dire. Enfin, c'est comme ouais, de mettre un copyright de anarchisme. Enfin, dire voilà, copyright Proudhon. Donc, tu vois, tu mets un euro dans la caisse à chaque fois que tu dis anarchisme. Il faut que tu files aux ayants droit de Bakounine ou de Proudhon ou de Kropotkin, quoi. Ouais.
Mais Montaigne disait déjà ça.
Ouais, on en arrivera là. Enfin, tu vois,
On n'aurait plus de sous. Non, mais c'est marrant parce que Montaigne disait déjà ça, et pourtant ça remonte à 1550, aux alentours de 1550.
Et Victor Hugo, si on avait parlé.
Ouais, mais c'est, ils sont nombreux à s'être dit justement, mais de toute façon, une idée, peu importe comment tu la formules, à partir du moment où tu la diffuses, elle t'appartient plus.
Oui, c'est, bah c'est ça que je veux dire. En fait,
elle appartient à tous ceux qui vont l'avoir lu, entendu, qui vont se l'approprier et qui vont en ressortir quelque chose d'un peu différent parce que, bah voilà, ils en ont fait quelque chose qui leur est personnel. Et comme ça, ça va se diffuser avec des variantes, avec des changements. Mais de toute façon, que ce soit de la musique ou des idées, que ce soit de la peinture, dès que c'est diffusé, ça ne peut plus appartenir à quelqu'un. Alors après, on peut essayer de barricader avec des copyrights, des.
De toute façon, il y a tous les circuits de distribution à revoir. Par exemple, pour le cinéma, pour tout, il y a les circuits de distribution. Quand tu vois le nombre d'intermédiaires, repenser un petit peu local. Quand tu vois, par exemple, si tu veux faire un film, tu vois la fortune que ça va te coûter parce que tu vas devoir être produit, machin et tout. Il faudra peut-être un peu plus repenser local, de dire que tu vas faire déjà des concerts sur une ville, tu vois, de te faire connaître, de faire un peu les rades, de faire, d'essayer de faire, si tu projettes un film un peu dans le milieu militant, à entrée libre. Bon, c'est vraiment un vœu pieux, je sais que tu vois, c'est. C'est vachement naïf ce que je dis, mais ça m'empêchera pas de penser que la propriété intellectuelle est une aberration, quoi. Et tu le vois encore. Et je parle même pas dans le médicament ou dans les avancées vraiment technologiques. Enfin, tu vois, dans la médecine où tu vois tes brevets, t'as des brevets sur des brevets qui pourraient sauver des vies, quoi. Et que tu dis non, bah c'est ou les médicaments. Enfin ouais. Enfin, tu vois, c'est.
Oui, ou parce que tu sais que tu vas pas faire assez de thunes, tu vas pas rentabiliser ton brevet, bah tu fais pas de recherche dans tel domaine où tu n'auras pas suffisamment de patients à soigner. Du coup, tu dis bah ça on s'en fout, il y a que 100 personnes à soigner, ça va pas rapporter d'argent. Alors bah, on laisse tomber et puis on fait les médocs qui vont rapporter gros. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique, mais je pense que cette problématique, enfin, il me semble, j'y ai réfléchi pas mal de fois justement ces notions de propriété y compris intellectuelle. Je vois pas comment on peut s'en sortir sans justement changer de système, parce que tant qu'on reste dans un système de type capitaliste, forcément il y aura une rentabilisation de l'art ou des médicaments ou de tout ce qu'on veut. Donc en fait, peut-être, c'est une piste, c'est une hypothèse, et la solution ce serait qu'il n'y ait plus du tout de propriété intellectuelle, physique, mais du coup les artistes, il faudrait qu'ils limite, il faudrait même plus qu'il y ait d'artistes, tout le monde serait potentiellement artiste. Celui qui a envie de décrire, je sais pas, un poème, n'importe quoi, celui qui a envie de jouer avec son groupe de la guitare, bah voilà, il est artiste de fait, il a envie de poster ce qu'il a fait, il le poste à tout le monde, sans qu'il y ait cette notion de est-ce que je vais gagner de la thune dessus, est-ce que je vais être rentable, parce que la société sera organisée de telle manière que t'es plus à t'inquiéter de savoir est-ce que tu vas pouvoir vivre ou pas de ton art. On garantirait que tu puisses vivre, et donc après, sur ton temps libre, bah, si tu as envie, tu fais de l'art, tu fais pas de l'art, tu fais ce que tu veux. Mais ça, ça demande évidemment de changer d'organisation sociale.
Mais c'est pour ça que le débat organisé par Culture.
La notion même d'être artiste, en plus, c'est quelque chose de très artificiel. Parce qu'en fait, qui décide qu'un individu est un artiste? En fait, c'est une élite.
C'est marrant, je l'ai dit un milliard de fois cette phrase.
Non mais c'est vrai, le truc, faut pas l'oublier ça.
Tu vois qu'on partage pas que nos prénoms.
Les personnes qui ont décidé que Picasso c'était trop classe, et que d'autres mecs c'était de la merde, bah c'est des gens qui font partie des classes dominantes et qui ont décidé que voilà, lui il est bien, lui il est pas bien. Ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art. Ça c'est top, ça c'est pas top. Donc ça veut dire ça va coûter $1 million dans 40 ans. Et ça, 10 euros, même pas je le prends.
Mais surtout que le plus grave, c'est que tu vois, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, quand tu parlais de cette élite, avant cette élite, elle partait, enfin, elle te vendait quelque chose, mais elle partait quand même de quelque chose de cool, tu vois, elle allait te vendre Picasso, mais bon, il y a quand même quelque chose derrière. Ce qui est plus grave maintenant, c'est que les mêmes personnes te vendent quelque chose, mais qui est de la merde en plus. Enfin, tu vois, quand tu vois le.
Non, mais moi, je pense que.
T'allumes une chaîne de télé, une télé musicale, tu regardes les groupes qui sont. Enfin, c'est même. En plus, on te vend même pas un truc où il y a un minimum de qualité, c'est qu'on te vend un truc dont tu n'as pas besoin et qui en plus est merdique.
Que ce soit de la merde ou pas. Le truc, c'est que comme il disait. C'est quoi ton prénom?
Guillaume.
Guillaume. C'est que, en fait, je pense qu'on peut tous être des artistes. Le truc, c'est qu'à partir du moment où il y a un truc qui nous passionne, c'est de la musique, de la peinture, de la sculpture, machin. Moi, j'ai une pote, tu vois. Elle fait de la peinture. Elle fait des trucs. Bon, moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aimeraient pas. Mais voilà. Qui décide combien coûte sa toile? Qui décide que cette nana, c'est une artiste?
Allez, ouais. Ben là, c'est la grande question de...
Que pourtant, elle l'est. Et le truc, c'est que l'idée, c'est que si justement, si on enlevait la question marchandise, et donc sortir du marché, comme je disais, sortir du capitalisme, mais pour plein de trucs aussi. Hein. Parce que le problème, il est là... Enfin, pour tout ce qui est produit, le problème de par exemple de la question de la production dans le capitalisme, c'est qu'il se sert de la nécessité de produire pour faire du profit. Mmh. Alors que par exemple, voilà, que les questions que nous en tant qu'anar, on pourrait se les poser autrement. Comment on fait les choses? Qu'est-ce qu'on produit? Comment on produit? Et pareil, l'art, la place qu'il aurait dans notre vie, elle serait peut-être, tu vois, elle serait différente. Parce qu'elle sera justement pas affectée de cette logique-là. Et c'est ça qui est, tu vois, qui.
Ouais, c'est
qui
ça.
Mais justement sur la question de comment on produit. Enfin, tu vois, je pense au débat de camarades de culture spectacle sur l'outil numérique. Ne pas le voir forcément, tu vois, comme quelque chose de mauvais, parce que, enfin, mine de rien, les outils numériques se sont tellement démocratisés que tu vois n'importe qui peut faire un site internet, prendre des belles photos, faire un beau film, tu vois, produire de la musique. Et tu vois, c'est justement de profiter que tu vois. Les logiciels numériques se sont simplifiés pour pouvoir produire nous-mêmes et plus passer par des cercles de distribution, tu vois, de passer par, enfin, tu vois, maintenant, t'as des logiciels très simples, tu peux retoucher ta musique, tu vois, t'as pas besoin de passer par un méga studio de professionnels. Et justement, de profiter que, tu vois, ça s'est démocratisé pour pouvoir produire nous-mêmes avec des outils numériques simplifiés, quoi.
Ouais, mais ça, c'est, voilà, ça implique de changer de... Parce que moi, quand je commence à partir sur ce genre de piste, on me dit toujours, ouais, mais c'est pas possible, tu te rends pas compte, les artistes, après, faut qu'ils vivent, ils ont pas d'argent, etc. Et je pense que c'est compliqué d'expliquer que ça passe forcément par une autre façon d'organiser la société. Effectivement, je pense, dans le système actuel, tu peux pas dire comme ça... Il n'y a plus de droit d'auteur et on télécharge tout ce qu'on veut, parce qu'effectivement en bout de chaîne t'as peut-être quelques artistes, bon je parle pas des Johnny et compagnie, je parle des petits artistes qui galèrent un peu, ou des musiciens simplement, ou des intermittents du spectacle qui peuvent faire le son, la sono, tout ça, qui peuvent en pâtir. Donc c'est pour ça que sur les revendications de type ouais, on veut la liberté totale du net, on veut que tout soit accessible sans contrainte, etc., je fais toujours attention, que ça vienne des Anonymous ou d'autres, hein, de partis pirates, il y a des idées voilà, qui viennent un peu partout. Je dis toujours attention, faut quand même que la revendication aille plus loin que simplement on veut la liberté, parce que si on se cantonne, on veut la liberté tout de suite.
On veut consommer gratos.
Consommer gratos, c'est pas possible. C'est comme si tu vas chez ton boulanger et tu dis, non, mais attends, la propriété de ton pain, c'est pas possible, je prends ma baguette, je me casse sans te payer, et que tout le monde fait ça. À un moment donné, voilà, pour le boulanger, c'est pas possible. Je pense que pour le petit artiste, c'est pas possible non plus, ou pour l'acteur, enfin, tout ce qu'on veut, c'est pas possible. Donc, juste voilà, petit bémol de faire un peu attention sur les revendications qu'on porte, de pas oublier de préciser que ce qu'on dit quand on dit propriété intellectuelle, on veut l'abolir, propriété physique, juste de préciser, on propose pas juste ça, on pense globalement à une autre organisation, ça va beaucoup plus loin. Et c'est même nécessaire que ça aille plus loin si on veut pas que ça se pète la gueule dès qu'on mettra cette idée-là en place.
Quoi. C'est pour ça que même si je sais que je suis naïf sur la question, que les circuits de diffusion à revoir. Enfin, qui a dit que tu vois un groupe de musique doit être connu dans le monde entier? Tu peux déjà commencer par ta ville et forcément, enfin de toute façon, si tu t'engages sur du local, enfin tu vois, t'engages les moyens proportionnels. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr.
C'est, tu vas pas partir sur une tournée qui va coûter des millions d'euros. Tu vois, tu vas aller te déplacer en caisse. Bon, c'est chiant et tout. Et tu fais, enfin, tu vois, tu te fais connaître déjà au niveau de ta ville. Et pareil pour la musique, bon pour le bouquin c'est encore là, c'est bon là c'est autre chose quoi.
Ouais, mais encore, c'est encore un état d'esprit, ce que tu dis. Je pense
que c'est un. C'est que les gens veulent engager des. Ouais, voilà, enfin, tu vois, veulent un circuit. Enfin, veulent être.
Énorme, quoi.
Énorme, tu vois, qui forcément demande beaucoup plus de moyens. Et enfin, tu vois, si tu t'adresses à beaucoup plus de monde, forcément, ça va changer ta manière de jouer, ta manière de produire. Donc, tu vois, enfin. Dire pourquoi pas, même. Enfin, on parle de produire local au niveau de la bouffe, au niveau de tout, quoi. Donc, pourquoi pas produire local aussi, enfin. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la production. Mais pourquoi on produit, enfin pourquoi on ne jouerait pas le local, pourquoi on diffuserait pas le local déjà pour commencer, quoi.
Oui, en tout cas c'est possible. Après il y a ce côté mégalomanie qui fait aussi partie de.
C'est sûr que si tu veux jouer, c'est sûr que si tu te mets en tête déjà d'aller taper sur toute la France par exemple, t'as un petit groupe de musique, c'est sûr que tu vas demander à avoir beaucoup plus de moyens. C'est sûr qu'au niveau thune tu vas être déçu.
Mais quand on voit par exemple des grands groupes, mettons tiens Guns N' Roses, ça fait fantasmer bien des artistes aussi, enfin. Genre de groupe où qui gagne des millions.
Ouais, mais là on est là pour moi on est vraiment plus dans la musique. Enfin, tu vois, là on est, enfin tu vois là.
Mais ça n'empêche.
Voilà,
que,
t'es dans voilà, le marketing. Enfin, tu vois, t'es.
Tout à fait.
Enfin, on est plus du tout. Ouais, là, enfin, tu vois, c'est comme un film. Tu vois, enfin, tu vas prendre un film à 500 millions de dollars.
Les gens sont pris
là, on est plus
dans cette logique aussi. Donc c'est sûr que.
Non, c'est clair.
Ça c'est l'idéologie, quoi. C'est l'idéologie du système qui dit si tu veux être bien, il faut que ce soit grand. C'est-à-dire, faut pas.
Bigger is better.
Pas que tu sois connu juste dans ta ville, faut que tu sois connu dans le monde. Si t'es pas connu dans le monde, t'es un loser, t'as raté ta vie. Ça c'est une idée.
Donc c'est pour ça en fait. Enfin, tu vois, si tu te donnes que des moyens, enfin, si tu te mets en tête que t'es un groupe local, je pense que tu sentiras moins le fait que t'as du mal à vivre. En fait, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Parce que tu ne mettras pas en tête d'aller gagner 6 000 ou 7 000 ou 8 000 euros par mois. Quoi. Tu diras bon tu sais, je vais gagner voilà à la hauteur de.
Ou même pas.
Ou même pas. Enfin.
Tu gagnes même pas sur ce que tu produis. Tu le fais vraiment par envie, par passion. Et tu gagnes, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut pour vivre parce qu'on se sera tous organisés dans la société de manière à ce que, bah voilà, on est combien ? Ok, on est tant. Ok, bah donc il faut produire tant de bouffe, tant de flotte, tant d'électricité, etc., etc. Et après, sur tout le temps libre qu'on a réussi à se dégager, bah, celui qui a envie de faire de la musique, il fait de la musique. Il se produit avec ses potes. Celui qui a envie de faire de la peinture, il fait de la peinture. Voilà, après, c'est vraiment une autre façon, complètement une autre façon de.
Mais attention à ne pas se faire piéger, attention à pas se faire piéger aussi pour les petits groupes. Tu vois, que comme ils se disent, je suis un groupe et en fait, j'ai du mal à joindre le debout, alors qu'en fait, ils bouffent et tu vois, le loyer payé. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que, tu sais, des potes le font, hein, qui se mettent en tête que comme c'est des artistes, tu vois, gagner 1500 euros ou 2000 euros par mois, ça craint, tu vois. Ouais, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je fais, bah non, tu sais, la plupart des gens gagnent ça en France, hein, tu sais. Enfin oui, c'est sûr que si tu vas me prendre justement les Guns N' Roses, il y a une énorme différence, ça, il n'y a aucun souci, quoi. Mais je veux dire, faut aussi regarder combien les gens gagnent autour de toi, quoi. Et je veux dire, t'as quand même de la chance de faire quelque chose qui te plaît, quoi. Enfin, tu vois.
Ouais, c'est le métier passion, c'est pas donné à tout le monde.
Bah, c'est clair, quoi. Et franchement, c'est plus sympa de jouer dans un bar ou dans un pub que d'aller se faire chier au bureau
7-8
heures par jour, quoi.
C'est pas la même. Mais ce que je voulais juste rajouter sur la notion, pour finir peut-être sur la propriété intellectuelle, c'est que c'est possible. Que ça n'existe pas, cette idée même de la propriété intellectuelle, d'autant que ça a existé. Si on prend par exemple une période du Moyen-Âge comme le XIIe siècle, pratiquement personne n'avait en tête que les compositions, que les textes appartiennent à l'auteur. Il y avait une tradition de ménestrels, de troubadours, etc., qui se déplaçaient de ville en ville, ils allaient dans telle ville, tiens, il y avait l'autre ménestrel machin qui jouait une musique, qui composait des vers, bah, le gars, il le récupérait, il allait jouer lui-même dans telle autre ville, il diffusait, et ça se diffusait comme ça, et après, bah, il faisait des changements sur la musique, sur le texte, etc., de manière très libre, et personne ne serait venu les taxer en disant, ah ouais, mais attends, t'as repris la musique ou le bouquin de telle autre personne et du coup t'as pas le droit.
Tout simplement parce que ce que je te disais sur le live, justement, c'est que tu payes pas la musique, tu payes la prestation physique, en fait. C'est que la personne est jouée pour toi, en fait, ouais, devant toi, quoi.
Mais même, t'aurais pu payer à la fois la prestation et l'artiste, lui, il aurait pu payer des droits, par exemple, à l'artiste à qui il a repris, tu vois, le.
Ouais, mais là, tu en serais en retour.
Mais même pas, tu vois, il y avait même pas cette idée que tu puisses payer quelque chose. Parce que tu t'es inspiré ou même parce que tu as repris carrément à 100%.
Bah, tu vois, enfin, je pense, regarde à toutes les crapules qui ont signé à deux pifs. Hein, tu vois, évidemment, tu retrouves des Johnny, machin et tout. Mais c'est des mecs qui jouent combien de fois en live, tu sais, sur une carrière, quoi. Qui te font une méga tournée, qui te font aller. Bon, j'avoue, ils vont te prendre sur une année, ils vont t'enchaîner un max de dates. Mais sinon, peut-être, tu regardes entre deux tournées, tu as un trou noir de 5, 6, 7 ans, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est pareil pour des groupes comme ACDC ou j'en sais pas. Enfin, tu vois. Les mecs te font une tournée tous les 6 ans.
tu vois, ils partent un an, ils font rentrer le pognon et ils repartent, quoi. Et ensuite, tu les revois plus jamais en live, quoi. Enfin, c'est quand même une aberration que pour un groupe de musique, tu sais, les mecs, pendant 5 ou 6 ans, ils foutent pas un pied dans une salle de concert, quoi. Enfin, je sais pas. Alors ça, par contre, en studio, ils y sont, ils font des CD, il y a aucun problème. Mais ne foutent plus un pied dans les concerts, quoi.
Voilà, voilà. Donc, c'est bientôt fini. Donc, on a parlé...
C'est pas mal écarté du sujet, mais finalement, on y était quand même.
On a beaucoup parlé de propriété intellectuelle, mais bon... On aurait pu parler aussi de diffusion d'informations parce que quand même Internet c'est aussi Internet et les moyens de communication numérique ça peut nous permettre donc d'ouvrir de nouveaux espaces de communication, d'échange d'informations, de débats, etc. Et on aurait pu parler donc aussi par exemple des réseaux sans fil de communication communautaire ou genre de choses qui peuvent se faire à la marge d'Internet ou peut remplacer Internet ou au moins être une alternative en cas de censure, etc.
C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas subir les outils numériques, mais justement se les réapproprier. Et en plus, maintenant, c'est tellement simplifié que ça ne demande pas beaucoup de formation. Et une fois qu'on maîtrise la bête, on n'en est plus la victime.
Tout à fait.
Et on peut faire de belles choses. Quoi. Comme le tracteur.
C'était l'autre fois sur les réseaux Wi-Fi qui se mettent en place dans les quartiers, c'est ça, les gens qui s'organisent.
Par exemple, maintenant, un petit boîtier Wi-Fi routeur, comme on appelle ça, c'est pas grand-chose. Ça a deux antennes, tu le poses dans un coin et ça diffuse un réseau Wi-Fi. Et ça permet en fait, de créer un réseau avec plein de boîtes différentes qui s'éparpillent, donc multi-points,
multi-émetteurs,
voilà. Récepteurs. Qui permet de couvrir, par exemple, tout un espace, tout un lieu, tout un quartier, une ville. Donc, ça, complètement à la marge d'Internet, ça peut être même relié à Internet, s'il faut. Ça, c'est impossible à bloquer ou quoi que ce soit.
C'est vrai qu'on parlait des circuits locaux, des productions locales, et pourquoi pas des réseaux locaux.
C'est ça, rien qu'avec un boîtier Wi-Fi, il n'y a pas de souci, c'est faisable, c'est possible. Il y a des gens qui expérimentent ce genre de choses.
Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. On va devoir rendre l'antenne pour laisser la place à la suite.
Voilà. Donc, juste le site internet du syndicat de l'informatique.
cnt-f.org/sii. Ou plus simplement syndicat-informatique.fr.
Voilà. Les deux, c'est pareil. Et puis on vous dit au mois prochain pour une autre émission.
Ciao tout le monde, bonne soirée. Aventures.
Salut.
Et moi je vous dis à demain parce que demain c'est santé sociale.
Tu veux pas annoncer le thème de l'émission d'ailleurs pour demain ? Annoncer le thème de votre émission ?
Donc demain dans le cadre de Radio Libertaria, le Santé Sociale vous présentera une émission autour de l'autisme.
L'attention est montée d'un cran, les policiers ont reçu de nouvelles consignes.
Il est maintenant temps en France de sévir.
Des Français interrogés se déclarent favorables au principe de tolérance zéro.
Seront affectés au transport en commun pour qu'on puisse prendre les transports en commun sans avoir peur et à ce qu'on appelle les brigades anticriminalité pour qu'on aille chercher les délinquants là où ils se trouvent et qu'on leur mène la guerre, aux délinquants et aux voyous.
Ce cinquième numéro d'appel d'urgence est maintenant terminé. Attention à vos poches et à vos sacs dans le métro. Merci, bonsoir.